Les conservateurs de la CDU, de CSU ont rencontré les Verts, mais pour l'instant, aucun accord en vue, rien n'est terminé, mais aucun autre rendez-vous n'a été prévu, indique Angela Merkel. Dans un instant, nous allons à la Bourse de Paris, la Bourse qui ne s'est jamais autant intéressée à la météo qu'avec la menace Rita.
La Bourse, avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
La Bourse de Paris qui est en hausse pour l'instant, Cédric Decoeur.
Oui, alors est-ce à corréler avec le cyclone Rita qui justement perd un petit peu de puissance? Après deux séances consécutives de baisse, le marché parisien lui est de retour dans le vert. En ce dernier jour de la semaine, le CAC 40 gagne en effet 0,34%. Il est à 4463 points, le tout dans un volume d'affaires d'1,7 milliard d'euros négociés sur les valeurs du SRD. Mais sur la semaine, eh bien l'indice abandonne encore 1,02% d'un vendredi sur l'autre. Ailleurs, sur le vieux continent, les places financières sont également bien orientées, à l'image de l'Euro First 80 qui gagne 0,32%. Et puis, sur le marché des changes, le billet vert, lui, a repris sa marche en avant à la faveur des chiffres moins mauvais que redoutés tombés hier. Du coup, l'euro cote 1,2121. Voilà, Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui gagne 0,34%. Il est à 4463 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui une des figures les plus singulières de la vie politique française au XXe siècle, Jean-Jacques Servan-Schreiber.
La politique aujourd'hui, ça consiste à s'occuper de la vie des gens. Alors, je dis, je n'ai pas de dogme, je n'ai pas de catéchisme, je n'ai pas d'idéologie. Je veux concrètement, progressivement et sans arrêt, améliorer, transformer la vie des gens.
Ans d'histoire. Dans les colonnes de son journal, au Parlement et même pendant quelques jours au gouvernement, pendant 30 ans, celui que tout le monde appelait par ses initiales, JJSS, a profondément marqué la vie politique française. Inclassable et incontrôlable, n'écoutant que ses intuitions pour le meilleur et pour le pire, Jean-Jacques Servan-Schreiber ne laissait personne indifférent. Détesté par ses ennemis, celui que Chirac surnommait le Turlupin a fasciné aussi toute une génération de Français qui découvraient chaque semaine dans l'Express les engagements de cet agitateur d'idées qui n'avait qu'une ambition, mais non la moindre, celle de changer le monde. Un monde qu'il a quitté il y a 10 ans, atteint par une maladie neurologique, mais s'il ne se souvient aujourd'hui de rien, tout le monde se souvient de lui, qui s'exprimait pour la première fois au début de la guerre froide dans les colonnes du journal Le Monde ou dans cette émission de radio de 1949.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Autour du micro sont réunis
Claude Bourdet de Combat,
Jean-Jacques Servan-Schreiber du Monde et Geneviève Tabouy.
Je voudrais bien
que Claude Bourdet qui reprend la parole.
Et je dis, à supposer que les Américains soient une légion d'anges et les Russes soient une légion de démons, eh bien, je dis, dans ce cas-là, si, du fait du choc entre la Légion d'anges et la Légion de démons, nous avons la destruction du monde occidental, il n'y aura absolument rien de gagné.
Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Claude Bourdet est ouvertement partisan d'une troisième force dans le monde qui fasse une sorte d'équilibre et qui empêche le choc entre les deux autres. Or, une troisième force, ça se construit avec différents facteurs et on est arrivé à choisir les facteurs moraux. Alors pour expliquer que nous devions faire une troisième force, on a commencé, et maintenant on le fait de plus en plus, à nous dire qu'au fond, la Russie et l'Amérique sont aussi différentes de nous, l'une que l'autre. Et voilà où le débat devient intéressant, c'est quand on vient nous expliquer qu'il faut rejeter avec une même horreur l'Amérique et sa civilisation que la Russie et sa civilisation.
Jean Botterel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous qui avez consulté des quantités d'archives pour écrire la biographie de Jean-Jacques Servan-Schreiber, est-ce que vous connaissiez celle que l'on vient d'entendre et qui est sans doute la première, le premier enregistrement de la voix de Servan-Schreiber
en 40 ans? Non, et je le regrette parce que c'est assez émouvant. En plus, on retrouve la, c'est extraordinaire parce qu'on retrouve la voix de son fils aîné, David.
Et également les idées, on tout y reviendra, suite, mais on est en plein début de la guerre froide, il est question de neutralisme. Lui, Jean-Jacques Servan-Schreiber, est passionnément attaché à l'alliance avec les les États-Unis, l'OTAN qui vient de naître. Et alors, il a ce moment-là, quand on vient de l'entendre, il a à peine 25 ans, il est journaliste au Monde, l'Express n'existe pas encore, alors qu'il sort de l'école polytechnique. C'est quand même assez surprenant, il sort pas d'une école de journalisme, non, polytechnique, et il va vers le journalisme.
Bon, c'est le premier, je crois, de cette génération à entrer dans le journalisme après avoir fait l'X. Il y en a quelques-uns aujourd'hui. Mais il faut savoir que lui-même, à l'X, avait créé une revue avec un de ses amis, Mangenot. Et dans cette revue, il faisait déjà les éditoriaux et on retrouve, au fond, les idées qu'il va développer. Moi, je trouve ça assez fascinant, du reste, parce qu'il y a, comme disait Peggy, il y a des espèces de fondements idéologiques qui nous poursuivent toute notre vie. Et dans le petit extrait que vous venez de sortir, il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il rejette déjà le concept de la morale dans le débat politique. Or, aujourd'hui, c'est encore d'actualité.
Alors, s'il entre quand même dans le journalisme, et d'abord au journal Le Monde, c'est quand même pas tout à fait par hasard. C'est que il y a le poids de la famille. Il y a un père et un oncle qui possèdent Les Échos, hein, le journal Les Échos. Ouais. D'ailleurs, d'où naîtra l'Express. La famille, vous y insistez beaucoup, Jean Botorel, c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent tout au long de votre livre. D'abord, la famille, c'est même un clan. Ouais. C'est ouais. un clan qui me fait penser un peu au clan Kennedy, avec une ouais. mère qui me fait penser à Rose Kennedy, Denise, ouais. dont il est amoureux, enfin platoniquement, mais qui l'adore, qui adore oui. son fils, qui le pousse.
Oui, on ne peut pas comprendre Jean-Jacques si l'on ignore, en effet, cette relation passionnelle et réciproque entre sa mère et lui, sa mère qui le prenait vraiment pour le Christ sur terre. Mmh. Mais sa famille, le clan Servan-Schreiber, dès avant la guerre, est très... Il n'est pas financièrement puissant, contrairement à ce qu'ont cru beaucoup de gens, parce qu'il avait une manière d'agir dans la vie avec son jet, ses femmes, etc. On avait l'impression que c'était en effet un jet-setter. C'est une famille très bourgeoise, mais surtout qui a une influence culturelle très forte. Et elle l'a eu dès les années 20 avec Les Échos, puisque son oncle Robert crée Les Échos et son père est un des grands journalistes des Échos, un éditorialiste et un des premiers reporters, en fait, économiques.
Vous avez évoqué les femmes, Jean Botorel, il avait une passion pour les femmes, en tout cas il en a collectionné beaucoup. Il y a eu bien entendu sa femme, mais il y en a eu bien d'autres avant. C'est un homme à femme, c'est un séducteur, c'est un Don Juan,
C'est un thème sur lequel j'ai essayé de donner un peu mon point de vue dans le livre, mais enfin je ne vais pas faire de psychanalyse.
Je crois ni que la liste, hein, parce que c'est interminable.
Hein. Oui, la liste est interminable. Concrète. Je pense qu'il se regardait dans les yeux des femmes. C'était un séducteur probablement, et je ne l'imagine pas comme un homme à femme, à l'inverse de son cousin Jean-Claude. Ils étaient en rivalité. Jean-Jacques séduisait les femmes, mais ça n'était pas un amant au sens, à mon avis, au sens charnel du terme. Je m'avance peut-être, mais enfin les témoignages que j'ai recueillis confirment cette idée. C'est curieux, je crois que c'est lié à sa mère. Il était tout le temps à la recherche, à travers les femmes, c'est banal.
Elles sont souvent plus âgées qu'elle, effectivement, toujours, que lui, ouais. je veux dire.
Mais d'ailleurs, ouais. l'éducation sexuelle qu'il a, à l'époque ça se faisait, pense fréquemment, c'est avec des femmes beaucoup plus âgées que lui, et toutes d'ailleurs ayant des enfants, ce qui est très curieux.
Alors parmi les femmes, il y en a une qui a plus peut-être compté que les autres, pas forcément sur le plan affectif, mais celle qu'il rencontre en 1951, Françoise Giroux, celle avec laquelle il va fonder ce qui sera sans doute sa plus belle réussite, la plus belle réussite de sa vie, un hebdomadaire, le premier d'ailleurs du genre, l'Express, très engagé contre la guerre d'Indochine qui sévit à cette époque et contre celui d'ailleurs, et pour celui, pardon, qui voulait y mettre un terme, Pierre Mendès France. On écoute Françoise Giroux que j'avais reçue dans 2000 ans d'histoire le 31 janvier 2002.
Paris a découvert la musique des rotatives et le parfum de l'encre d'imprimerie en assistant au premier tirage de l'Express quotidien. Sur le verso du nouveau-né, on a vu se pencher toutes les bonnes fées de la presse, de la politique et de l'art. Monsieur Mendès France, Jean-Louis Barrault, Marcel Achard. Une feuille qui pousse en automne, c'est en effet un événement.
Oui, c'est un journal de combat.
Un journal de combat qui a été créé par vous deux, par oui. Jean-Jacques Servan-Schreiber et vous-même, Françoise Giroux. Et puis alors, pour un homme, dites-vous, qui est Pierre Mendès France.
Oui, enfin, surtout pour mettre la politique d'un homme au pouvoir, si possible lui-même, bien sûr. Enfin, c'était un moment très, très tendu en France, puisqu'il y avait une guerre d'Indochine dont les gens ne savaient même pas qu'elle existait d'ailleurs, mais où en attendant les Français se faisaient tuer. Il y avait une situation économique très dangereuse, il n'y avait plus un investissement en France, donc il était absolument nécessaire d'intervenir, de parler. Et, bon, Mendès avait, un plan à ce moment-là, en tout cas des théories à la fois économiques et de politique étrangère et de ce qu'il fallait faire avec l'Indochine. C'est très clair, il fallait qu'il puisse le dire, il fallait qu'il ait une tribune.
Et c'était François Giroud au micro 2000 ans d'histoire en janvier 2002, avant sa disparition. L'Express, indépendamment de ses prises de position dont on parlera et dont vous parlez beaucoup, Jean Botterel, il faut rappeler d'abord que c'était une véritable révolution. Jamais on n'avait vu un journal de ce type paraître en France.
En 53, quand il est lancé, et c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il inaugure une formule dans la mesure où il va appuyer un homme qui est Mendès et qu'il va ajouter à cet engagement politique des pages culturelles, des pages sociales.
Oui, il y a des signatures extraordinaires.
Et, bon, et des signatures en ce sens, il innove complètement, mais il y avait d'autres journaux qui faisaient ça beaucoup plus mal, mais qui essayaient de le faire. Parce que là où il révolutionne le système, c'est que l'Express est divisé en deux parties. Ce qui n'était pas le cas de France Observateur ou de Témoignages Chrétiens, où toutes les pages avaient tous une tonalité politique. Tandis que dans l'Express, la première partie est très politique, derrière Mendès, donc à fond pour l'amener au pouvoir. Et la seconde partie, et c'est en cela qui révolutionne le système, c'est une partie où il y a des critiques littéraires, des critiques de cinéma, et il y a des signatures extraordinairement prestigieuses, parce que toute la palette des intellectuels de l'époque passe à l'Express.
Vous les citez, Mauriac, oui.
Mauriac, Malraux, et puis même Roger Stéphane, etc., alors qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. Non, je trouve que la force de Jean-Jacques à cette époque-là, parce que c'était lui le patron du journal, ça n'était pas François Giroud, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, et sa force, c'est que cet homme était extrêmement décensuré dans sa tête, et il a laissé écrire tous les gens, et il les embriquetait pas. Vous aviez Briançon qui dans le même numéro, vous pouviez avoir Jean Daniel qui contredisait Briançon, lequel était contredit par Jean-Jacques. Et c'était quand même extraordinaire.
Et un hebdomadaire qui est devenu brièvement quotidien, on l'a entendu dans cette archive, puis qui redevient hebdomadaire, mais qui a joué un rôle, qui a eu une influence importante sur la vie politique. Énorme. Il a littéralement poussé, en tout cas encouragé, le retour l'arrivée de Mendès France au pouvoir, la lutte contre la guerre d'Indochine, il en était un peu le porte-étendard, je parle de l'Express. Il y a eu aussi
la décolonisation
générale, contre la guerre d'Algérie. Oui. D'ailleurs, que Jean-Jacques Servan-Schreiber a fait. Il est parti, il a été mobilisé. Oui. Il a quitté son journal, il s'est même pas exprimé pendant la guerre, mais après,
il a écrit ce fameux livre Lieutenant en Algérie qui a suscité d'énormes débats et une énorme polémique, puisque certains généraux et colonels de son régiment était contre ce qu'il rapportait. Bon, c'est toujours le même débat. Mais l'Express, non seulement a joué un rôle dans les grands thèmes de l'époque, c'est-à-dire l'anticommunisme et la décolonisation, et puis il a joué un rôle, je trouve, énorme dans l'évolution des mœurs. Parce que l'enquête sur la nouvelle vague, c'est l'ancien Express. C'est la première formule de l'Express. Et ensuite, la seconde formule qui naît en 62, le News Magazine, là, de nouveau, c'est une gigantesque révolution, puisque tous les News Magazines d'aujourd'hui
sont inspirés de l'Express de 62.
Indéniablement, ça, il a cette vision. Il était...
Alors, très engagé aussi contre De Gaulle. Hein. C'est un anti-gaulliste viscéral,
oui,
Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Oui. Ça renvoie à sa famille, d'abord, parce que le terreau de Jean-Jacques, c'est tout de même le radicalisme. C'est le radicalisme éclairé. Son père était un radical éclairé, son oncle était un radical éclairé. Il est dans cette mouvance-là, au fond, un Léon Bourgeois modernisé, finalement. Et même très modernisé, très américanophile. Tout le monde est bilingue, dès cette époque, ce qui est quand même très rare dans les familles françaises. Et donc, cet homme a une appréhension de l'histoire qui n'est pas du tout celle de Gaulle. D'ailleurs, je cite ces phrases qui sont inouïes, puisqu'il dit que s'il était ministre de l'Éducation nationale, il enseignerait aux Français à oublier l'histoire, et à oublier Napoléon et tout ça.
Ouais.
Donc, il n'est pas du tout dans cette famille-là. Et ensuite, le hasard de la vie fait qu'il rencontre Kérilis, donc le fondateur de l'époque. Or, Kérilis aujourd'hui ne dit plus rien aux jeunes Français, mais Kérilis était un résistant et un anti-gaulliste, ce qui était assez paradoxal. Et il avait 20 ans quand il rencontre Kérylis, donc je pense qu'on est très influençable à cette époque-là.
Alors Jean Botterel, évidemment cet anti-gaullisme a quand même lui coûté quelques amitiés, quelques signatures qui s'en vont, sans doute, Mauriac va le quitter, Malraux va le quitter. L'Express quand même va connaître quelques difficultés pendant toute la période pendant laquelle de Gaulle était au pouvoir. Et alors il rebondit d'une manière extraordinaire avec ce qui a été sans doute pour un essai politique le plus grand succès de librairie de l'époque, et même encore jusqu'à aujourd'hui, Le Défi américain.
Oui.
Donc, c'était quoi ce livre? Il faut rappeler peut-être
il paraît en 67, et le thème central du livre, c'est que Jean-Jacques dit que les États-Unis sont en train de bouffer l'Europe et la France, si nous ne réagissons pas, compte tenu de l'évolution des nouvelles technologies. Parce que ça, c'est la seconde dimension du personnage qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est fasciné par l'évolution technologique. C'est le premier à ma connaissance, et à parler de l'ordinateur, c'est la vraie boîte à outils. Ouais. Pour lui, c'est la boîte à outils universelle. Et donc, c'est ça le thème du défi, américain. C'est-à-dire qu'il demande à l'Europe et à la France de réagir contre cette superpuissance qui va nous écraser. Et d'ailleurs, les gens ont oublié aujourd'hui, mais au fond, le défi a été très bien accueilli par De Gaulle. C'est ce que je raconte, il y a une anecdote intéressante. Probablement la seule œuvre que j'ai jamais faite, Jean-Jacques, qui ait reçu l'assentiment de certains gaullistes, dans un lieu où il défendait, à sa manière, le nationalisme français, en disant, attention, l'Amérique est là, et ce livre a pris des rides, mais pas tellement.
Alors De Gaulle disparaît, d'abord quitte le pouvoir en 69, et Jean-Jacques Savoie-Schreiber s'en réjouit, d'ailleurs il est...
c'est l'article
c'est extraordinaire.
Le plus épouvantable.
Ah oui. Et même d'ailleurs au moment de sa mort, là il pousse le bouchon un petit peu loin. En tout cas, De Gaulle parti, le défi américain ayant eu un énorme succès, eh bien JJSS entre dans la politique, non plus dans les coulisses, comme avec Mendès France, mais à la tête d'un parti dont il devient le président en 1960. France Inter, Jean-Claude Turgeman, le 17 octobre 1971.
L'événement du week-end, c'est bien sûr le changement intervenu à la tête du Parti radical. Je donnais à l'instant les résultats du scrutin qui a porté Jean-Jacques Servan-Schreiber à la tête du parti, 431 voix contre 267 à Maurice Faure. Henri Pajot ne peut pas dire que ce résultat soit tellement surprenant.
Ce sont donc les partisans d'un homme qui, si l'on en croit ses déclarations, veut épouser son époque pour la transformer, qui l'ont emporté. Pour eux, il ne s'agit pas de composer avec l'échiquier politique tel qu'il est, mais de créer une nouvelle dynamique qu'il est difficile de classer à droite ou à gauche. Voilà d'ailleurs la définition de cette action par Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Au nom du Parti radical, nous allons passer à l'action sans relâche. Nous voulons créer le mouvement réformateur.
Jean-Jacques Servan-Schreiber, donc président du Parti radical en 1971, il était
secrétaire général.
Secrétaire général, il avait même été élu triomphalement d'ailleurs à Nancy. Qu'est-ce qui le pousse dans la politique active? Il en faisait déjà par le truchement de son journal. Pourquoi maintenant il descend dans l'arène?
Ah non, mais là je crois que c'est sa vocation profonde, le personnage, et ça c'est l'essentiel du personnage. Cet homme a toujours c'était un missionnaire qui voulait changer la France, peut-être le monde d'ailleurs, et donc il voulait entrer en politique pour ça. Or, il n'avait pas du tout le sens de la stratégie politique, d'où ce parcours
un peu chaotique, mais on y reviendra. Où le classer dans le reportage qu'on a entendu? Ni à gauche, ni à droite. C'est vrai que le Parti radical est toujours un peu entre les deux.
Mais je crois que c'est vrai, il a abandonné les idéologies, et tout ce qu'il écrit dès les années 50 est contre l'idée même qu'il y ait une idéologie de droite et de gauche. C'est très profond chez lui. Et il s'inscrit au Parti radical très tôt. Jean-Jacques est au Parti radical avec une carte en 1952 ou 53. Mais il ne milite pas. Il ne sait pas ce que c'est que militer dans un parti.
C'est le parti de Mendès.
Et lui-même pense que la France est mûre pour... dès cette époque-là, ce qui était une erreur totale d'analyse, mûre pour penser la politique autrement, en excluant les concepts de droite et de gauche, et il va échouer lamentablement, mais en tout cas, il passe à l'action, c'est ça.
Et alors, de manière tonitruante, vous rappelez le succès assez extraordinaire, il faut bien le dire, de sa campagne électorale quand il est élu député de Nancy en 70. C'est un triomphe à l'issue d'une campagne américaine, évidemment, sans doute.
Il met le paquet, il a de l'argent, il le dépense, et d'ailleurs, la politique le ruine à moitié, et ensuite sa vie va le ruiner complètement, mais il est comme ça. Je pense qu'il est convaincu qu'il a quelque chose à dire, et il faut lui reconnaître quelque au moins. Il n'a jamais eu le pouvoir politique, mais il a introduit dans notre vocabulaire des mots très forts que Giscard va reprendre. Celui qui bénéficie de ces idées de réforme, de réformateur, de changement, c'est tout le discours giscardien qui arrive en 74 et que
Mais on y reviendra, Jean Botorel, mais il y a aussi ces... Alors, d'abord, il y a la victoire de Nancy, voilà, et la même année, alors c'est là où on voit bien que c'est un impulsif, la même année, il se dit tant qu'à faire, surfant sur le succès que lui a procuré sa victoire électorale à Nancy, il se présente carrément contre Chaban-Delmas à Bordeaux, et alors là, c'est la Bérézina.
Oui, c'est une chose inédite. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des Trois Républiques, que quelqu'un se présente trois mois après dans une autre circonscription, surtout à l'autre bout de la France. Bon, il est battu, il n'y avait pas besoin d'être un grand génie pour le savoir, mais dire que c'est tactique, que c'est... Non, c'est des impulsions.
Mais par exemple, il va se mettre à dos, c'est un mauvais calcul, c'est tactique, il va se mettre à dos beaucoup de Français, non pas dans sa lutte, alors là, il milite activement, il va même se rendre à Mururoa contre les essais nucléaires, mais par exemple, contre Concorde. Alors là, évidemment, ça blesse l'orgueil des Français. Il dit Concorde, c'est un avion qui ne volera jamais, qui n'atterrira jamais, etc. Enfin bref,
Mais par exemple, dans sa lutte anti-nucléaire, il y a une continuité, puisque la lettre que je cite à son père au moment d'Hiroshima est quand même très, très forte en même temps. Il dit que c'est quelque chose qui est absolument inacceptable et qu'il faudra arrêter ça. Et il essaye d'ailleurs en 1954 d'imposer à Mendès un discours à l'ONU sur le même thème, que Mendès ne fait pas évidemment. Il est tout le temps, si j'ose dire, décalé par rapport à la réalité sociologique du pays.
Et même par rapport à la carte politique. Par exemple, il rêve d'un grand parti de centre-gauche, fait un peu des appels du pied à François Mitterrand, mais comme il déteste les communistes, il refuse le programme commun. Et en 1974, donc, il prend parti pour Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand, ce qui va lui permettre d'ailleurs d'entrer dans le gouvernement de Jacques Chirac, qui était Premier ministre de Giscard d'Estaing. Et là, il entame une carrière de ministre qui est sans doute la plus courte de la Ve République, puisqu'il entre au gouvernement le 28 juin 1974 et qu'il en est chassé 13 jours plus tard, à la suite d'une conférence de presse dans laquelle Jean-Jacques Savoie-Schreiber condamnait les essais nucléaires décidés par son gouvernement.
Je désapprouve tout essai nucléaire dans le ciel du Pacifique et sur la Polynésie française. Et je pense surtout à plus long terme que le gouvernement français et le président de la République surtout s'appliqueront à définir une autre politique étrangère, une autre politique de défense que celle dans laquelle tous les pays du monde balbutient.
Jean-Jacques Savoie-Schreiber n'est donc plus ministre. Il ne sera resté que 13 jours ministre des réformes.
Le Premier ministre a annoncé lui-même qu'il a été mis fin aux fonctions ministérielles de Jean-Jacques Savoie-Schreiber.
Sur ma proposition, le président de la République vient de mettre fin aux fonctions de M. Jean-Jacques Savoie-Schreiber comme ministre des réformes. Alors, nous regrettons beaucoup d'avoir eu à prendre cette décision et le président de la République, comme moi-même, espérons très vivement que les facultés d'imagination et de dynamisme dont il a toujours fait preuve pourront, dans la majorité, mais à l'extérieur du gouvernement, s'exercer au Parlement et je puis vous assurer que nous serons toujours très attentifs à toutes ces propositions qui seront toujours examinées dans un esprit aussi constructif que possible.
Et c'était Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, annonçant le départ de Jean-Jacques Savoie-Schreiber qui était entré au gouvernement, j'ai dit le 28 juin, c'est le 28 mai 1974. Il le quitte 14 jours plus tard. Chirac d'ailleurs qui le surnommait le Turlupin.
D'ailleurs la petite déclaration de Chirac est un chef-d'œuvre de vacherie, si on analyse.
Il fera mieux sur le Parlement, Parlement qu'au gouvernement. Mais on a rarement vu, hein. Il y a eu quelques cas après.
Ouais, sous la quatrième, il y avait
une carrière ministérielle aussi courte.
Sous la cinquième. Mais ce qu'il y a encore de plus drôle, c'est qu'il n'est jamais allé à son ministère, hein, puisqu'il n'a pas eu le temps d'y aller, parce qu'il a, il était à Nancy, il s'occupait d'autre chose, parce qu'il avait toujours 1000 choses sur le feu, hein. C'est, ça aussi, c'est un autre aspect.
Alors, ça, 74, c'est le début d'un déclin assez pathétique, puisqu'en quelques années, Jean-Jacques Savoie-Schreiber va tout perdre, vous le rappelez, Jean Botorel, dans votre livre, L'Express, où il est de plus en plus critiqué à cause de ses prises de position, qu'il vend en 77, il perd son mandat de député en 78, il va même perdre la présidence du Parti radical, après avoir quand même créé, c'est un des rares réussites politiques, l'UDF. C'est lui qui est un des fondateurs de l'UDF.
Enfin, c'est lui qui pousse Giscard à décider de la création du DF. Ça, c'est indéniable. Et même le Giscard lui-même, avec qui il entretenait de bonnes relations, mais des relations pleines d'ambiguïté, comme c'est toujours le cas d'ailleurs avec Giscard. Mais en tout cas, l'UDF, il force la main du président et finalement, on peut dire que c'est grâce à l'UDF que la majorité n'est pas battue en 78. Hein.
Alors lui, en revanche, va l'être en 79. Il s'aventure dans les élections européennes, une liste européenne avec François Giraud qui recueille 1,84% des voix. Alors là, c'est fini. Ces dernières années sont assez pathétiques. Vous le rappelez, Jean Botterel, il doit abandonner un centre mondial de l'informatique qu'il avait créé avec le soutien de François Mitterrand. Et lui-même, nous sommes au début des années 90, eh bien, il continue de voir quand même François Mitterrand. C'est d'ailleurs une conversation avec lui que Jean-Jacques Savant-Schreiber racontait en 1991 sur France Inter.
J'étais un soir avec François Mitterrand et son épouse, Danielle, chez eux dans sa bergerie. La conversation m'a beaucoup frappé parce que Mitterrand dit « Jean-Jacques, qu'est-ce que vous pensez de la mort ?» Et je lui réponds sincèrement « Je ne m'y intéresse pas du tout. » Il m'a fait écouter Jean-Jacques. « Si on vous dit que demain matin, vous mourrez, qu'est-ce que vous pensez ?» Et je lui réponds, ça ne m'intéresse toujours pas du tout. Il se tourne vers Daniel et lui dit, mais enfin, tu te rends compte de ce qu'il vient de dire? La mort ne l'intéresse pas. Et il y a eu un fossé tout d'un coup entre nous deux, Mitterrand, etc., et la mort le fascinait. Et moi, pas du tout. Si on me dit, même aujourd'hui, là, vraiment, nous parlons ensemble, que demain matin, je suis mort, ça ne me gêne en rien. Ça ne me préoccupe pas du tout. Voilà. Ni le passé, ni l'avenir. Je vis passionnément l'instant.
Ni le passé, ni l'avenir. C'est beau, c'est tout à fait, c'est tout à fait Jean-Jacques Savant-Schreiber.
C'est lui, là, oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas si la conversation avec Mitterrand était de cette facture-là, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est exactement ça. En revanche, il était dans le présent, mais il a essayé de projeter toujours ses ambitions sur un avenir. Il avait des visions, c'est un homme qui avait des visions, mais il n'avait pas du tout la dimension du politicien, en fait. Et il s'est totalement égaré quoi là-dedans.
Et c'est en même temps quelqu'un, c'est pour ça que cette archive est assez pathétique, parce que c'est une des dernières fois où on l'entendra, où on l'entend, puisque petit à petit, c'est un homme aujourd'hui qui vit hors du monde, Jean Botterel.
Oui. Enfin, il faut rappeler quand même que le Centre mondial informatique a été un moment assez fort pour les jeunes de l'époque, dans les années 81, 83, et que Mitterrand l'a soutenu. Mitterrand était assez fasciné par cet homme qui était sur un terrain intellectuel totalement étranger à la culture de François Mitterrand. Et c'est vrai que l'informatique, les ordinateurs, la télématique, le monde américain, Mitterrand était réellement fasciné, à tel point que ça se sent très bien dans le livre de Jacques Attali, qui est très très agacé par la présence de Jean-Jacques parmi les visiteurs du soir.
Merci Jean Botterel. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie donc de Jean-Jacques Savant-Schreiber, Celui qui voulait tout changer, les années JJSS, un livre publié cette année chez Robert Laffont. Vous êtes également l'auteur des biographies de Bernard Grasset et de Louise, ou La vie de Louise de Villemorin, tous deux édités chez Grasset. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lidouine Caron, Camille Poux-Chalaguier, Claire Tesser et à notre rédactrice en chef, si je puis dire, Anne Comilac. Le programme de la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, une histoire de la police de Louis XI à Nicolas Sarkozy. Jeudi, l'invention de la photographie. Enfin, vendredi, 50 ans après sa mort, un mythe américain, James Dean. Je signale d'ailleurs à ce propos qu'Arte diffusera un théma consacré à l'acteur après-demain dimanche dès 20h45. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
Merci Patrice Gélinet.